Nous vous présentons à l'instant l'art du métier prise 2 avec Daniel Leblond, jésuite, artiste peintre, qui s'entretient avec Aimé d'Andois Paradis, poétesse, éditrice et conceptrice de spectacles de poésie.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Heureux de vous retrouver une fois de plus. Et heureux surtout d'accueillir Madame Aimé d'Andois Paradis. Je peux peut-être vous dire que c'est la seule fois que je vais l'appeler Madame, parce qu'on est des grands amis depuis fort longtemps. Aimé est une poétesse, c'est une femme qui est excessivement engagée et qui l'a été encore plus dans le domaine littéraire, dans le domaine de la culture. Je dirais que c'est une femme de cœur, toujours pleine de projets, n'est-ce pas, Aimé? Malgré les oui. aléas de la vie, et disons-le, le nombre d'années, hein, on peut le dire, Aimé.
Ah, oh, bien sûr.
Dans
bien
quelques mois. 90 ans dans quelques mois. Donc, Aimé, bienvenue. Bienvenue à l'art du métier. Comme tu sais, c'est une émission où je reçois des artistes. Puis je me dis que là, vraiment, aujourd'hui, c'est un moment fort de cette émission qui dure depuis quelques années. De te recevoir comme artiste et comme ami aussi. Il ne faut pas le cacher, il faut être transparent. On est deux grands amis. On a travaillé ensemble, on pourra vous en reparler et on va se tutoyer, hein, Aimé? Parce
oui,
que là,
ce serait
pas naturel.
On se connaît bien.
Aimé, on va commencer, si tu veux, par essayer de te situer pour les auditeurs, les auditrices. Cet amour des mots, parce que le poète est un amoureux des mots, hein, de la musicalité des phrases, des images, des métaphores, une sensibilité, un regard par rapport à la réalité et une intériorité aussi très profonde. J'aimerais savoir comment ça a commencé chez toi, parce que tu viens, comme tout le monde, d'un homme et d'une femme, d'une famille, et tu as grandi. Ça commence souvent très tôt, cet amour des mots, hein.
Oui, ça a commencé dès l'âge de 7 ans, après la mort de mon père, ce qui m'a vraiment touché profondément. Je me suis mis beaucoup, beaucoup à écrire et je n'ai pas cessé jusqu'à maintenant. Voilà. C'était des expériences de vie, c'était aussi parfois l'évocation de beaux souvenirs de l'enfance. Commencé en Gaspésie, au bord de la mer, à New Carlisle, dans la patrie de René Lévesque. Ensuite, nous sommes déménagés à Verchères, où j'ai été pensionnaire. Et là aussi, là, c'était très douloureux parce que je manquais beaucoup ma famille. Alors, je me confiais beaucoup, beaucoup à mon carnet. Alors, et ça me donnait du courage, ça me consolait.
Donc, écrire faisait partie vraiment de ta réalité, de ta vie, de tous les jours. C'était une façon d'aborder tous ces événements à la fois douloureux qui se sont présentés.
Oui, oui. Mais ça avait commencé, honnêtement, par un genre de journal et que j'ai tenu. Régulièrement et que j'ai détruit en France parce que ma maman était tombée sur le journal et on avait lu une partie et puis ça, je trouvais que c'était ma vie privée. Alors, j'ai brûlé le journal, mais j'ai continué à écrire de la poésie. Voilà.
J'aimerais qu'on parle de ta mère parce que je pense que c'était une femme justement qui était un exemple pour toi, hein, parce qu'elle est donc devenue veuve assez tôt avec plusieurs enfants quand même.
Oui, à 33 ans, maman est devenue veuve de 7 enfants.
7 enfants, oui.
7 enfants, mais courageuse comme elle était et aussi une femme très intelligente parce que mon père était ingénieur et il avait mis sur pied un poste de radio à New Carlisle et souvent il était déjà malade, mon père. Alors maman a pu souvent le remplacer, l'aider, comme ça. Et c'est une femme tellement extraordinaire, tellement courageuse, parce qu'elle ne s'est jamais plainte. et elle a pris soin de nous et a permis au moins à 3 enfants sur 7 à aller à l'université. Et ça, je lui ai une reconnaissance éternelle. C'était un modèle parce que maman aussi écrivait, maman peignait. Alors, elle m'a entraînée dans son sillon et elle était heureuse lorsque j'écrivais ou je pouvais peindre.
Elle avait un métier particulier quand même pour une femme à l'époque, hein?
Oui, maman est devenue la première femme ingénieure du son au Canada. Elle a étudié par correspondance avec les États-Unis, le Boston Institute of Technology, et ce qui lui a permis d'avoir son diplôme d'ingénieur du son et de travailler à Radio-Canada pendant de nombreuses années, et ce qui lui a permis d'élever sa famille.
Est-ce que tu faisais partie des 3 enfants qui sont allés à l'université, oui?
Oui, oui, oui. Oui, oui. Mon frère Gracien est allé à l'université, mon frère Bernard et moi. Mon frère Gracien était ingénieur, Bernard, mon frère, a été ingénieur et architecte, et moi, j'ai eu une maîtrise en littérature française et des diplômes en sciences sociales.
Ces études, justement, en littérature française ont dû t'aider par la suite à continuer cette vocation d'écrivaine.
Oui, parce qu'il y a eu quand même des littéraires que j'ai fréquentés, dont Gatien Lapointe, qui est un poète qui a été un très grand ami à moi, qui était un poète, m'encourageait beaucoup. Et on se rencontrait beaucoup, les universitaires à Outremont. Et on se réunissait entre poètes. Et c'est là que j'ai connu aussi Claude Léveillé, avec qui j'ai sympathisé énormément. Alors, c'était vraiment des rencontres qu'on organisait et on échangeait. On échangeait nos poèmes et on parlait de littérature ensemble.
C'est comme ça que tu as créé ton réseau, qu'on pourrait presque dire ton immense réseau dans le milieu culturel, surtout dans le milieu des écrivains.
Oui, et j'ai surtout, je l'ai déployé à Laval avec la Nuit de la Poésie en 86, où j'ai réuni une 20aine de poètes. Et c'était vraiment la seule fois où il y a eu une Nuit de la Poésie à Laval.
Ça, c'est ton autre côté, au fond, de ton... Tu as beaucoup organisé, tu es une personne très impliquée dans le milieu. Hein. Tu as été présidente de la Société des écrivains du Canada pendant plusieurs années et tu as organisé aussi des événements comme celui de Laval, mais par la suite, tu as pris en charge, tu as pris en main le Jésus aussi à Montréal et tu as fait un travail extraordinaire où tu as organisé des saisons de soirées de poésie. Hein?
Oui, ça c'était extraordinaire. C'était une partie de ma vie où j'ai été vraiment très heureuse de pouvoir mettre en scène des poètes, de permettre aussi au public de fréquenter la petite salle d'Auteuil qui était tellement une petite salle merveilleuse pour la poésie, où on a reçu de très grands poètes de toute origine. Et parmi ceux-là, j'aime bien citer les poètes haïtiens qui ont été tellement... dont le français nous donne des leçons. Les Le Gagneur, les Morisseau, ce sont de très grands poètes.
Ton réseau professionnel, mais je dirais presque aussi d'amitié, dans le monde littéraire, était très diversifié, avec des gens plus âgés, plus jeunes, avec des gens de diverses cultures.
Oui. Oui, oui. Avec les plus âgés, on a fait des soirées, on a organisé des rencontres, soit à la petite salle d'Auteuil ou même dans l'église. Ça a été merveilleux. Grâce à toi, d'ailleurs, qui m'a ouvert vraiment grandement la porte du Jésus. Et aussi, j'ai eu l'occasion de donner des ateliers de création littéraire qui ont été ouverts aux jeunes du cégep. Ça a été vraiment merveilleux. Et de là sont sortis de très grands poètes, dont Luc Courchêne, qui lit et qui est professeur de cégep en littérature aujourd'hui et qui m'a dit que c'est grâce à ses rencontres au Jésus si aujourd'hui il est professeur de littérature.
Ces ateliers-là, pour moi, c'est un des grands moments de l'histoire du Jésus Centre de créativité. Et ces ateliers-là débouchaient sur une soirée hein, où ces jeunes venaient partager leurs écrits. Et il y avait une densité, une profondeur. Il y avait un thème aussi qui était souvent présent, c'était la mort.
Hein. Oui.
Et pour se rendre compte comment ils étaient confrontés de diverses manières, par diverses expériences, mais justement à la mort. Hein. C'était de, oui. On pense toujours que bon, mais leur écrit était très, très fort. Puis c'était très apprécié aussi ce parrainage avec des professionnels, des poètes professionnels, parce que tu avais une petite équipe aussi qui te secondait.
Ben oui. Et finalement, c'est ça, quand moi, j'ai cédé la place de l'animation auprès des jeunes des cégeps. Ça a été Luc Courchêne qui a pris la suite. Et puis, il y a eu Daphné Azoulay aussi qui a aussi participé. Et aujourd'hui, Daphné Azoulay aussi publie en poésie. Alors, ça a été vraiment des occasions pour eux de se découvrir et puis de faire connaître leur grand talent au public québécois.
On a organisé aussi des nuits, tu te souviens, de poésie, silence et musique.
Hein? Ah oui.
Ça, c'était oui. Quelque chose. Toute la nuit, au complet, on alternait des 15 minutes de parole, des 15 minutes de silence, des 15 minutes de musique.
Oui, et... ça, c'était merveilleux. Je pense que le grand public montréalais a grandement apprécié ça. Mm. Et une fois que j'ai eu quitté mon poste du Jésus, j'ai quand même continué à participer à des nuits. Les fameuses nuits de...
Nuit blanche.
Mais nuit blanche, où je rencontrais... Les gens venaient me rencontrer et me donnaient un thème et j'écrivais un poème et les gens repartaient avec un poème personnel selon les thèmes suggérés.
T'étais à la fois un écrivain public puis un confesseur. Je me rappelle, dans cette nuit-là, les jeunes allaient, surtout des jeunes, des plus jeunes, ouais. Qui allaient te rencontrer, se confier à toi, puis tu leur écrivais justement un poème pour exprimer ce qu'ils t'avaient confié.
Oui, oui. Ça, c'était vraiment... j'ai trouvé que c'était vraiment un bel échange entre moi, le créateur, et les visiteurs,
les participants à la nuit. Oui.
Venaient. Alors, ils repartaient avec un poème et on avait couvert une petite chapelle avec les poèmes. Mm-hmm.
Au fond, ton engagement a été très important dans ta vie. Ton engagement pour la littérature, pour la culture, pour l'art, c'est une grande partie de ta vie. Et la transmission aussi, hein?
Oui, mais c'était important. Moi, ce que j'avais appris à l'école, c'est que j'avais beaucoup reçu, que j'avais été, dans le fond, choyé par les institutions et que je devais remettre. J'avais une dette envers la société et les jeunes. Donc, j'ai aimé partager, mais j'ai beaucoup appris avec les jeunes.
On y reviendra. Tu nous as choisi une première pièce pour cette première émission. Est-ce que tu peux nous la présenter?
Bon, quand les hommes vivront d'amour, de Raymond Lévesque, on est dans une période où il y a des turbulences sur le plan mondial et il est urgent de souhaiter que les hommes à nouveau vivent d'amour.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours. Mais nous nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront l'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais nous, nous serons morts, mon frère. Mais quand les hommes vivront l'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Nous qui aurons au mauvais jour, dans la haine et puis dans la guerre, chercher la paix, chercher l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants, de la sagesse, ici-bas c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais nous, nous serons morts, mon frère.
Merci beaucoup, Aimé, de nous avoir partagé cette chanson. C'est très émouvant, puis même si je l'ai entendue plusieurs fois, à chaque fois, il y a quelque chose d'autre qui vient féconder un peu ma réalité d'aujourd'hui. Hein, la force de ces mots qui ont traversé quand même les frontières, puis qui ont parlé à tant de gens. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de la force des mots.
Les mots ont des mots qui nous guérissent de nos maux. Les mots sont puissants. Les mots crient dans l'espace poétique. Les mots dénoncent les tyrans. D'ailleurs, j'ai écrit un poème justement là-dessus, un hommage à Alexis Navalny, qui a été tué en prison par le tyran de Poutine, ou ses sbires.
Est-ce que tu peux nous le partager?
Oui, je l'ai justement ici. Hommage à Alexis Navalny. Fier défenseur de tes convictions, Alexis Navalny, tu sors vainqueur d'un empoisonnement grâce à ce séjour en Allemagne. De retour en Russie en 2021, ennemi juré du tyran Vladimir Poutine, tu es incarcéré subito presto en Sibérie, où, en dépit des tortures, tu poursuis ton combat contre ce monstre du Kremlin en galvanisant le peuple en vue des élections de mars. Hélas, déjà floué, tu es mis à mort froidement par les sbires de Vladimir Poutine. Alexis Navalny, héros des temps modernes, tu veux ranimer la flamme, tu redonnes la fierté au peuple dans sa conquête de liberté, sans piédestal. Tu demeures la pierre angulaire de l'expression du libre arbitre des Russes sous la gouverne de ce despote, sans entrailles, prêt à tout sacrifier pour s'arroger la suprématie du peuple. Merci.
Merci. Mais combien de livres as-tu écrit? Tu en as écrit plusieurs.
Il y a au moins 6 recueils et il y a beaucoup de participations collectives avec d'autres. Alors, c'est...
Ça fait beaucoup de mots, ça. Et je pense que tu prépares encore un recueil. Hein? Je pense que tu vas éditer bientôt, non?
Non, j'ai été édité en 2023 à 2 endroits différents, à la fois au Québec et en France. Alors, au Québec, ça s'appelle « Au creux du silence » et en France, c'est « Le temps à ma fenêtre ». le temps à ma fenêtre, si je reviens à cela, c'est 35 ans d'écriture sur le temps. Parce que le temps, pour moi, est précieux. Le temps mesure la vie, mesure aussi nos émotions. Le temps nous fait vivre, le temps nous fait mourir à petit feu par moment, mais le temps peut aussi nous réjouir. Alors, le temps est mobile, le temps est sensible, le temps arrache les pages du calendrier à la force de nos émotions.
On oublie trop souvent que le temps, c'est un ami et qu'il n'y a qu'avec le temps que certaines choses se réalisent, certaines choses peuvent se vivre. Alors aujourd'hui, oui. On passe trop vite d'un temps à l'autre, mais il y a une continuité qui s'inscrit dans nos vies avec le temps. Et
oui.
Cette continuité-là, il faut la sentir, il faut s'accrocher. Et ça nous fait passer à la fois des aléas de notre vie qui sont difficiles comme des joies extraordinaires, mais tout s'inscrit dans le temps. Ça, c'est,
Oui. Ouais. Et il faut laisser du temps au temps. Et il faut respecter le temps.
Laisser du temps au temps. C'est beau de te voir nous partager justement la beauté des mots. Parce que souvent, dans tout ce monde de placotage, de quand dira-t-on, de tout ce qu'on peut, des mots, on parle beaucoup, mais des fois on trahit la véritable nature, la véritable mission des mots, tu trouves pas?
Oui, c'est les mots sont précieux. Malheureusement, en ce moment, je suis obligé de parler un peu du plan politique. Au Québec, on donne pas une belle leçon sur les mots. On torture les mots, on déchire les mots, on massacre les mots et on insulte avec des mots.
On les trahit, hein?
Oui. Ah. Oui.
Ben, nous aurons l'occasion certainement d'en reparler parce que le temps aussi file petit à petit. C'est extraordinaire de voir une femme de ton âge avec encore des projets. Parce que tu as encore des projets.
Oui, j'ai un autre recueil qui est en route, qui est presque terminé. Hein.
Et on n'a pas parlé non plus de ta qualité de peintre, parce que tu peins aussi.
Oui, mais c'est surtout abstrait. Et moi, j'ai appelé ça mes croûtes. Et j'ai une amie, Claire-Marie Gosselin, qui a exposé d'ailleurs au Jésus, et qui est venue chez moi. Et qui m'a dit qu'il fallait pas que je les appelle mes croûtes parce qu'elles avaient un message. Voilà.
C'est des croûtes à message.
C'est des croûtes à message, voilà.
Finissons par un poème.
Est-ce que tu aimerais que je donne un extrait des derniers livres?
Oui, vas-y.
À la croisée de l'intime, subrepticement glissent les méridiens du cœur. S'effare mon esprit. À l'abandon, mes mains s'acharnent au matin à effacer mes doutes. Mon âme, poète, migre, mon cœur, musique, conjugue, pressant l'harmonie, écueille l'octobre. Ainsi glisse le temps, s'use le temps, brûlant mes feux et se recroqueville mon hiver.
Terminé sur des mots, terminé sur tes poèmes, c'était la meilleure de toutes les fins. Bon, Aimé, nous allons nous retrouver dans un mois et nous aurons l'occasion de continuer à approfondir à la fois les mots, les phrases, les métaphores, la beauté de la vie qui se transmet par les mots, même au travers de situations qui sont difficiles et qui ne sont pas toujours belles en soi. Hein? Il y a un pouvoir des mots, il y a un pouvoir de la poésie, et j'ai envie de parler de poésie encore plus avec toi. Merci, Madame Aimée d'Endroit-Paradis. On se retrouve le mois prochain pour continuer cette aventure au cœur des mots. Merci beaucoup.
Merci, Daniel.
À bientôt.
À bientôt.
Vous venez d'entendre l'art du métier prise 2 avec à l'animation Daniel Leblon, jésuite. Son invité était Aimée d'Andois Paradis, poétesse.